If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition Clubhouse. Cette émission est le replay de la room Happy Work que je tiens tous les vendredis à 18h sur Clubhouse et le sujet était le présentéisme. Alors figurez-vous que cette room a totalement changé mon point de vue sur le présentéisme. En effet, je croyais que c'était un mal spécifiquement français. Et nous avons eu des témoignages venant de Belgique, d'Allemagne, comme vous le verrez, des États-Unis. Malheureusement, également un témoignage de l'Algérie, mais pour un problème technique, et je m'en veux énormément, j'ai appuyé sur le bouton stop record. Il n'a pas pu être enregistré. Mais en fait, vous allez voir que ce problème est mondial. Et nous allons, pendant cette émission, parler de la situation, mais également donner quelques solutions, histoire de lutter contre ce présentéisme. J'ai passé un extrêmement bon moment pendant cette room et j'espère vous y voir en direct vendredi prochain à 18h sur un autre sujet. Je vous souhaite une excellente écoute et surtout n'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez des suggestions de sujets pour une discussion en direct. Bonne écoute. Alors, le principe de cette room, c'est nous allons parler du présentéisme et comme d'habitude, je vais faire une petite introduction parce que le présentéisme, c'est quand même un mal assez franco-français, alors je parle sous le contrôle de toutes les personnes dans l'audience qui seraient dans d'autres pays, et j'aimerais juste rappeler l'origine du présentéisme. Il semblerait, selon certains sociologues, que le présentéisme à la française soit né après la Deuxième Guerre mondiale avec la création d'un statut qui s'appelle le statut cadre. Avant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des gens qui dirigeaient des équipes, mais qui avaient le même statut que leurs collaborateurs et collaboratrices. Après la Deuxième Guerre mondiale, création de la sécurité sociale et d'un certain nombre d'avantages, le statut cadre est créé avec des vrais avantages. Et les cadres se sont dit « mais je fais le même métier qu'avant-guerre, mais j'ai des avantages en plus. Il va falloir que je prouve que je mérite ce salaire. » Et on commençait à se dire « mais si je suis chef, je ne peux pas partir avant mon équipe. » Et le présentéisme à la française serait né comme cela, avec ce côté, faut rester longtemps pour prouver qu'on est efficace. Alors justement, en ce moment, on est en train de vivre une période un peu particulière parce que le présentéisme numérique existe. Juste pour information, pendant la pandémie, un certain nombre d'entreprises françaises et internationales, mais beaucoup de françaises, ont dit, si on vérifiait la présence en ligne de nos collaborateurs et de nos collaboratrices. Et donc, ils ont fait du flicage numérique. Et ça, c'est ce qu'on appelle du présentéisme numérique. Alors justement, l'idée de cette room, c'est 1. Qu'est-ce que vous en pensez? Même si je suis assez convaincu que personne va dire « Ouais, le présentéisme, c'est génial. » Mais surtout, comment on lutte contre ce présentéisme, ce satané présentéisme à la française? Alors, on va faire à la fois dans l'ordre. Et pour une fois, ma chère Léna, l'ordre en plus me permet d'être galant. Léna, c'est quoi ton regard sur ce satané présentéisme à la française?
Alors, mon regard, il est assez négatif et le constat est vrai. J'ai le sentiment que c'est très français de faire du présentéisme et je l'ai beaucoup vu dans les entreprises, des personnes qui soit vaquaient à des tâches personnelles pour faire passer le temps, soit des personnes qui se sentaient mal d'arriver plus tard et de partir plus tôt. Et si je peux commencer peut-être par des pistes de réflexion, je pense que ça devrait commencer par arrêter d'ériger le présentéisme en modèle. Parce que j'ai pu constater que bien souvent dans les entreprises, on encourageait ce type de comportement, voire on félicitait les personnes qui faisaient preuve de présentéisme. Donc je pense que si on commençait déjà par arrêter d'encourager ça et de féliciter ce type de comportement, peut-être qu'il y aurait déjà un début de changement. Et le deuxième point, c'est la confiance. Voilà, je ne vais pas trop parler.
Non, mais tu as raison, Léna. Et qui n'a pas entendu cette satanée phrase, si on part un peu plus tôt, est « tu prends ton après-midi le truc absolument atroce. Alors, je donne juste peut-être un chiffre pour nourrir la réflexion. Un salarié français, chaque jour, quand il est en présentiel, va passer une heure sur ses réseaux sociaux personnels. Donc, vraiment, à être là et rien foutre. Alors qu'en Suède, 16h30, tout le monde se barre du bureau et ça se passe plutôt très bien. Alors, Monzouber, tu es monté sur le stage. Est-ce que tu as un regard sur la question ? Avant de donner la parole à Hervé Charles, mais Hervé Charles, tu es modo, mais tu es arrivé après, donc je donne la parole à Zouber.
Excusez-moi, Hervé Charles. Moi, j'ai un regard, j'ai l'impression que ça touche que les jeunes. Les jeunes en entreprise, les alternants, les stagiaires, qui veulent en faire un peu plus, qui veulent montrer leur motivation, qui veulent terminer leur travail pour être plus tranquille le lendemain. J'ai travaillé dans une chaîne de télévision où les gens partaient de manière pile à l'heure, à 16h30, 17h, ils étaient déjà partis. Ils ne faisaient pas d'heures supplémentaires. Ils arrivaient même parfois en retard, mais ils organisaient leur travail. Donc je pense que le présentéisme, c'est... Moi, ce que j'ai vu, hein, c'est que ça touchait les jeunes qui démarraient sur leur premier job et qui voulaient donner une bonne impression.
C'est marrant ce que tu dis parce que moi, alors ça, certes, ça fait 7-8 ans que je suis plus en entreprise, mais j'ai pas l'impression que ça soit générationnel. Alors je vais donner la parole à Hervé Charles qui est un vieux comme moi. Enfin, sauf si tu mens sur ta photo, Hervé Charles, mais moi je pense pas que ça soit générationnel. Qu'est-ce que tu en penses, Hervé Charles ?
Alors, je ne mens pas sur ma photo, il n'y a pas de retouche non plus, je tiens à le préciser, sinon j'aurais mis une perruque. Je voudrais juste rappeler deux chiffres quand même, parce qu'on parle du présentéisme, ça peut paraître sidérant, mais quand on parle généralement de l'absentéisme, c'est environ 16 à 17% par an. Et bien l'absentéisme, c'est entre 16 et 17%, c'est-à-dire que le coût pour les entreprises, il est colossal. Et là, je reconnais que c'est plutôt le chef d'entreprise qui parle. Est-ce que c'est générationnel ou pas ? Je ne sais pas. Là-dessus, j'ai pas de réponse aujourd'hui. Ce que je vais simplement dire, c'est qu'on a mis un cadre où on nous a dit qu'il faut faire 8 heures, il faut faire 10 heures. Et chez les cadres, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a un contrat annuel d'heures. Et si on ne fait pas son nombre d'heures, et ben effectivement, on prend notre après-midi, on prend des journées supplémentaires. Je crois que c'est le regard des autres qu'il va falloir travailler par rapport à ça. Et c'est, on y reviendra sûrement tout à l'heure, c'est peut-être le sens qu'on donne au travail qui va être important dans la notion de traiter le présentéisme.
Oui, tu as complètement raison. Alors, on va venir, là, on est en train de faire le constat et après, on va venir sur les solutions pour lutter contre le présentéisme. Alors, si vous êtes dans la room en tant qu'auditeur, n'hésitez pas à monter pour participer, pour apporter vos idées ou vos réflexions. Mais effectivement, le côté, c'est 8 heures de travail, ça a un côté qui est tellement hallucinant. Moi, je vais vous raconter une anecdote. Quand j'étais chez Canal+, j'allais chercher mes enfants qui étaient en bas âge. Et ça faisait partie du deal. Ils étaient venus me chercher. Je leur disais, OK, mais moi, 2 à 3 fois par semaine, je pars à 17h. Le nombre de fois où j'ai entendu, et c'était quasiment chaque semaine, non, mais dis donc, tu prends ton après-midi. Et c'était un truc, mais de malade. Alors, toi, Laurent, le présentéisme, quel regard portes-tu là-dessus ? Alors, déjà, je souhaitais te féliciter, parce que comme Hervé Charles, tu ne portes pas de perruque.
Non, tu nous as piqué les cheveux. Bon, d'accord. Alors, pour moi, le présentéisme, d'abord, c'est pas du tout un truc français. C'est pas du tout franco-français. Moi qui ai travaillé aux États-Unis, les Américains, ils font la même chose. Donc, ça, c'est pas vrai. C'est pas franco-français. Je suis désolé de vous enlever ça aux Français, mais moi, j'ai vu des Américains être très peu efficaces et ralentir la cadence de travail pour tenir le temps qu'ils avaient à travailler. Mais ça, je l'ai vu, mais vraiment. Alors que moi, j'ai toujours fait ce que j'ai voulu et dans toutes les boîtes où j'ai été, moi, j'ai dit, voilà, j'ai 2 heures de concentration dans ma journée. Le reste du temps, il faut que je fasse des trucs sur lesquels je réfléchis pas. Donc, de toute manière, si vous voulez me prendre, ça sera comme ça sera pas autrement. Donc du coup, j'ai jamais vraiment ressenti l'absentéisme pour moi personnellement, le présentéisme pour moi personnellement, parce que je suis toujours parti quand j'en avais envie. Par contre, pour je l'ai vu effectivement, des gens qui se forçaient à rester pour rien. J'ai toujours trouvé ça ridicule parce que je pense que chacun doit juste. Je trouve que c'est une manière d'infantiliser les gens, en fait. Et je trouve ça dommage. Chacun doit se réguler soi-même. Alors, à moins qu'il y ait une réunion à une heure et que tu as fini ton boulot avant et que tu es obligé d'aller à cette réunion, et bon, dans ces cas-là, tu te retrouves devant la salle d'attente de la réunion en attendant que la réunion arrive. Bon, ben ça, c'est parce qu'évidemment, chacun doit se réunir et que. Si on a décidé une heure, forcément, si tu as terminé ton boulot, bah, tu n'as pas le choix. Sinon, effectivement, je trouve ça complètement ridicule. Et surtout, je trouve que ça infantilise les gens, en fait. Ça ne les responsabilise pas du tout. Voilà. Mais ce n'est pas que français, en tout cas.
Alors, tu sais, Laurent, que ce que tu as décrit, ça a un nom. C'est le syndrome de Parkinson. Rien à voir avec la maladie. Parkinson, c'est un sociologue qui a remarqué que dans les entreprises, alors lui, il a fait une étude sur le service public, mais ça se duplique sur le privé, que si jamais tu as une tâche qui te prend factuellement 2 heures, si l'entreprise te donne 4 heures pour faire cette tâche, tu vas allonger ta durée de travail pour que cette tâche rentre dans cette durée. Et c'est là où ça devient incroyablement paradoxal, c'est-à-dire qu'on réduit sa productivité pour rentrer dans ses heures de travail. Mais moi, je m'inscris un peu en faux, mon cher Laurent, mais alors on a l'habitude sur la matinale info du collectif France, on n'est parfois pas d'accord. Aux États-Unis, le côté quelqu'un qui partirait tous les soirs à 19h ou 20h, on ne dirait pas « waouh, il est impliqué », on dirait « mais il ne sait pas s'organiser, il n'est pas productif ». Et il y a d'autres pays, je pense à la Suède, les pays nordiques bien entendu, où ce n'est pas reconnu comme une qualité de rester longtemps au travail. Alors peut-être, toi, ton expérience aux États-Unis, c'est peut-être une expérience artistique ?
Ah, moi, c'est une expérience artistique, mais pas que. Hein. Je travaillais au sein d'une entreprise, certes française, installée aux États-Unis, mais qui était obligée d'avoir des gens qui travaillaient américains. Et j'ai vu beaucoup plus de présentéisme de la part d'Américains que les Français qui étaient dans la room avec moi. Il y avait à peu près 50-50. Après, j'ai travaillé avec... on devait travailler non seulement dans ce bureau, mais on devait aussi travailler avec les... Enfin, moi, mon client qui était à l'époque Bergdorf et Goodman. Donc, j'ai travaillé avec eux parce que j'allais pour leur montrer... Enfin, il fallait mettre en branle tout un système. Donc, il fallait que je leur montre comment faire le magazine, etc., etc. Donc, j'ai été avec eux... donc des équipes marketing, et j'ai vu vraiment de présentéisme, mais je vous le dis, autant qu'en France, et voire même des fois avec moins d'efficacité. Alors peut-être c'est pas du présentéisme, mais c'est effectivement ce que tu as dit, c'est-à-dire Parkinson, c'est-à-dire on régule pour... alors effectivement les Américains ils partent pas tard comme nous, c'est pas le même système, ils ont une certaine heure où il faut qu'ils partent, parce que effectivement, comme tu dis, sinon ça prouve qu'ils sont pas efficaces. Ça, t'as tout à fait raison, et en fait on est assez d'accord. Mais par contre, quand ils ont terminé leur boulot et qu'ils doivent partir à 17h ou 18h, eh ben ils vont rester jusqu'à 18h en allongeant leur travail. Des choses qu'ils peuvent faire hyper vite, ils l'allongent.
Mais voilà, ça, c'est un truc qui est tellement désespérant. Juste avant de donner la parole à Catherine, bienvenue sur le stage. Je voulais rappeler le système suédois qui est le système des 3-8. En Suède, c'est 8 heures de travail, 8 heures pour la vie perso, 8 heures pour le dodo. En gros, à 16h30, si tu appelles une entreprise à 16h30, bah, y a plus personne parce que la vie personnelle, bah, tu vas chercher tes enfants à l'école, tu profites de la vie. Donc c'est quelque chose qui existe et l'économie suédoise n'est pas forcément moins performante que l'économie française. Catherine, toi, c'est quoi ton regard là-dessus ?
Oui, bonjour, merci Gaëlle, bonjour Léna, Hervé, Charles, Laurent. Mon regard, c'est, moi j'ai de la chance, ça fait plus de 25 ans que je suis dans la même boîte, et d'avoir vu évoluer justement ce présentéisme et l'arrivée des générations, justement des intergénérations, porte un regard complètement différent. Il y a beaucoup de mouvements qui s'opère. Je pense que la pandémie et le télétravail accélèrent cette nouvelle vision. Mais je dirais qu'il y a quand même 3 présentéismes différents. Il y a celui, comme tu disais Gaëlle, c'est culturel, c'est l'éducation. Ce statut cadre, il faut le justifier. Mais il n'y a pas que les cadres qui font du présentéisme. Il y a aussi le présentéisme d'apparence. Cette présence qui va faire qu'on va être bien vu et avoir de la promotion assez facile en rallongeant le temps, en étant présent, en étant finalement disponible quand on va devoir en urgence être là au bon moment. C'est ça aussi. Et puis, il y a le présentisme par obligation, parce que on doit faire des heures pour faire tout le travail qu'on nous a donné. Et là, moi, je suis bien placée pour le savoir, puisque j'ai fait des burn-out sur le sujet, parce que j'avais trop de charges de travail. Donc, le présentéisme, il a beaucoup de facettes. Il n'est pas forcément sur, pour moi, le même degré. Pour le faire changer, je pense qu'il va falloir montrer que ça fait de beaucoup de dégâts et pour l'entreprise. Mais tant qu'on touchera pas au portefeuille, c'est clair qu'il y aura pas de mouvement. Pour les générations, les jeunes ne font, moi j'ai pas remarqué qu'ils faisaient plus d'heures que les autres. Ils appliquent la règle. Il y a des horaires, ils mettent les horaires et puis j'en ai vu qui partaient même quand le travail était pas fini. Donc, je pense que c'est vraiment une question de culture. Le gros souci, c'est quand on est tellement investi dans son travail qu'on vient même quand on est malade et que là, en ce moment, c'est pas forcément la bonne idée de venir au travail avec la goutte au nez, en éternuant, parce que ça fait fermer toute l'entreprise.
Mais merci de parler de ce présentéisme-là, Catherine, parce qu'effectivement, il y a des salariés qui culpabilisent tellement d'être absents qui vont venir même quand ils sont malades. Et alors, Dieu sait si avec la pandémie, le sujet, il est un tout petit peu présent, et qui vont contaminer les gens. Et ce présentéisme-là de culpabilité est vraiment existant. Alors, juste pour information, j'essaye de faire monter Christophe sur le stage. Christophe, ça y est, tu es là. Donc, bienvenue Laetitia, bienvenue Christophe. Donc, pour revenir sur ce que tu disais, Catherine, le présentéisme, effectivement, de maladie, parce qu'on va culpabiliser, existe, et il a été évalué en termes de coûts. Alors, j'ai plus le chiffre en mémoire, mais c'est absolument gigantesque. Et malheureusement, avec la pandémie, et j'ai un exemple qui me touche tout particulièrement, puisque en février dernier, donc 2020, j'ai été contaminé par ma chère épouse, parce que un des salariés de cette entreprise internationale avait le Covid, ne l'a dit à personne, est venu travailler et a été le patient zéro de l'organisation. Donc effectivement, ce présentéisme existe. Salut Christophe, alors toi, si je vois bien ton drapeau, tu es en Angleterre, comment ça se passe là-bas ?
Eh ben bonjour Yael et bonjour à tout le monde. Moi je viens juste d'attraper la room il y a quoi 5-10 minutes. J'ai écouté votre conversation et puis j'ai essayé de faire un reflet sur comment ça se passe chez nous en Angleterre. Et plus je vous écoutais et plus j'étais en train de m'apercevoir que au niveau des écoles. Je voyais ça et je vous entendais parler d'éducation et ça commence à la base. Et je me disais que en France, du moins ce que moi je peux en entendre et voir sur la France, j'ai l'impression que déjà beaucoup d'étudiants sont obligés d'être sur place, d'y aller, du moins avant, on va dire, la pandémie. Mais en Angleterre, et je vois ça donc avec ma fille, ces cours sont très tout à fait réduits. Ils prennent vraiment au goutte à goutte et ça arrive. C'est vrai que si elle finit ses cours ou ce qu'elle doit faire avant la fin, je suis désolé, je suis au milieu d'un parc, il y a plein de monde là. Je suis désolé. Et elle a le droit de partir, donc elle prend ses clics, ses claques et elle s'en va. Donc elle fait vraiment ce qu'elle a à faire et elle s'en va. Et c'est vrai que moi, en ayant une compagnie et je regarde un petit peu à mes collègues, je vois que les gens font un peu pareil, ils font leur boulot. Et ils me demandent si, comme ils ont accompli leur tâche, s'ils peuvent partir. Et c'est vrai que des fois, c'est la moitié de la journée. Mais tant que le travail a été effectué, moi, je suis tout à fait dans la convenance de les laisser partir. Et je pense que ça amène un équilibre un petit peu entre l'employé, l'employeur ou l'école et l'étudiant. Et je me demande si ce n'est pas à la base, un petit peu, en regardant les programmes, en leur disant, voilà, on doit faire ça, comme tu disais, pas en 4 heures, mais en 2 heures. Et en 2 heures, et ben, si c'est fait, ben, on les apprend déjà à s'auto-gérer un petit peu, plutôt que d'être géré totalement dans la durée. Voilà, donc est-ce qu'on ne devrait pas faire ça au système éducation à la base, plutôt que d'attendre trop tard dans les entreprises?
C'est tellement vrai, Christophe, et je pense aussi aux élèves allemands ou même aux élèves américains qui, ben, globalement, l'après-midi, c'est consacré au sport, au divertissement. Alors, je précise aux gens qui sont sur le stage, alors bienvenue Yvan, si jamais vous voulez intervenir, bien entendu, vous claquez votre micro. C'est pas du pop-corn, mais c'est presque du pop-corn. Léna, je t'ai vu claquer le micro. Tu applaudissais ou tu voulais intervenir ?
J'applaudissais. Je trouvais ça remarquable que Christophe laisse partir ses employés qui avaient terminé.
Mais on va y revenir, je pense, sur les solutions contre le présentéisme. Alors, mon cher Yvan, déjà, ça va être un plaisir d'entendre ta voix du Sud. Ton regard sur le présentéisme, quel est-il ?
Salut à tous, salut à Léna, salut à Hervé, Gaël, je t'ai déjà vu, Laurent aussi, Catherine, Christophe, et bonjour à tous. J'adore les sujets que tu abordes à chaque fois, et chaque fois, je me dis, je reste dans l'audience, et finalement, j'ai tellement envie de participer que je monte.
Mais parce que tu es un grand bavard, tu es un homme du Sud, mon Yvan.
C'est ça. Alors, j'opposerai, moi, le présentéisme à l'absentéisme. Et si l'absentéisme, on le définit comme le fait d'être absent au travail, le présentéisme, il a quand même une connotation négative, ça serait le fait, peut-être, de ne pas être productif au travail dans le temps qui nous est imparti. Moi, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Hervé tout à l'heure par rapport au sens. Je m'explique, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, dans le code du travail tel qu'on l'a défini ou dans ce qu'on fait aujourd'hui, c'est on signe un CDI ou un CDD pour un nombre d'heures et on doit effectuer ce nombre d'heures pour pouvoir honorer le contrat qu'on a signé avec l'employeur. Seulement, là-dedans, si on définit les missions ou si on définit les fonctions, on définit pas les objectifs. Et en tout cas, les objectifs au quotidien. Je mets des guillemets à ça parce qu'il se peut qu'à certains endroits, on puisse les définir. Mais qu'est-ce qui peut amener à du présentéisme ? Si on se place du côté du manager, ça serait que l'idée que le manager voit chez le salarié qu'il a, le fait qu'il vienne travailler 7 heures par jour, 35 heures par semaine, et que le manager juge l'idée que le salarié a fait 4 heures de travail productif et 3 heures où, selon le manager, il n'a rien fait. Si on se place du côté du salarié, on pourrait dire que, compte tenu du travail qu'il m'a donné, je vais soit faire le travail qu'il m'a donné parce que ça m'éclate et je vais le faire peut-être en 2, 3, 4, 5, 7 heures s'il faut. Et par contre, comme je suis payé à 35 heures, je vais devoir faire mes 7 heures de travail parce que sinon, on pourrait penser que je n'ai pas fait mon travail. Donc si on remet tout à plat, et c'est là où je rejoins Hervé dans ce qu'il a dit, Hervé Charles, c'est que... parce qu'il n'y a pas, c'est ni la faute au manager, ni la faute au salarié, en tout cas, pas dans ce que je suis en train de présenter. Mais l'idée, c'est que si la personne trouve suffisamment de sens au travail qu'elle fait, elle pourra organiser son travail de manière à rendre son travail, à atteindre l'objectif qui lui a été fixé. Si le manager est suffisamment capable de dire l'objectif que je te fixe, il est ça, 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 une fois que tu l'as atteint, j'accepte que tu puisses soit partir parce que tu as atteint l'objectif. Sauf que dans le code du travail, dans l'organisation du travail tel qu'on l'a, et je pense pas qu'en France, mais comme on l'a un peu partout, le dénominateur du travail, c'est le temps qu'on y passe et c'est pas la qualité de production. Si on s'arrête, mettons, à Amazon, je vais dire ça, mais c'est un peu plus tactique ce que je vais dire, mais si on disait tu as 40 000 boîtes à empiler et une fois que tu as fait tes 40 000 boîtes à empiler, tu peux te barrer, eh bien, le salarié, une fois qu'il a fait ses boîtes, il peut partir et il a assuré le travail qui lui était demandé. Et le manager, du coup, a fixé des objectifs que si le salarié atteint, il n'aurait rien à lui dire. Sauf que ce n'est pas comme ça que ça marche.
Mais tu as super bien résumé, Yvan, et je pense que ça va être un peu la thématique de la discussion juste après l'intervention de Laetitia. Merci beaucoup, Laetitia, de revenir. Ton témoignage américain m'intéresse énormément. Pas que les témoignages précédents ne m'intéressaient pas, mais ton micro marchait mal tout à l'heure, donc vas-y, donne-nous ta vision sur le présentéisme aux États-Unis, ça se passe comment ?
Alors, est-ce que vous m'entendez bien maintenant ?
Mais c'est formidable, comme si tu étais juste à côté de moi.
Parfait, très bien. Donc, en fait, moi, non, il y a beaucoup de présentéisme ici aussi. Après, ça dépend des boîtes, hein, bien entendu, mais moi, pour ma part, dans la boîte dans laquelle je travaillais, si je venais à 7h le matin, alors qu'on est censé commencer à 9h, parce que moi, ça m'arrangeait plus, quand je partais à 4h, j'avais beau avoir fini tout mon travail, les gens, ils te regardent un petit peu de travers. Donc, des fois, bah, pareil, je restais jusqu'à 5h et je bricolais des trucs ou même je lisais un livre en format PDF sur mon ordi en faisant semblant que je travaillais. Donc, c'est complètement bête.
Ça, c'est un truc qui est rigolo. C'est, je ne sais pas si tu as remarqué, Laetitia, on remarque toujours l'heure à laquelle on part, mais jamais l'heure à laquelle on arrive.
Oui, alors ce que je faisais, c'est que je faisais exprès, et c'est quand même bête d'en arriver là, quand j'arrivais, j'envoyais un email en étant sûr de copier ou faire quelque chose où les gens voient que tu es arrivé à telle heure parce qu'on n'avait pas de clocking clock-out, donc les gens ne voyaient pas. Par contre, après, quand on avait un excès de travail et qu'il fallait rester jusqu'à 1h du matin parfois, ben ça les dérangeait pas. Donc, tu avais beau rester jusqu'à 1h du matin, tu n'étais pas payé en plus et ça ne dérangeait pas. Pour ce qui est de quand tu es malade, moi, il m'est arrivé, j'étais en vacances à Tahiti avec mon mari et j'ai chopé chikungunya. Et j'ai travaillé à Tahiti avec Chikungunya parce qu'il y avait des objectifs et qu'il fallait que je finisse un gros projet pour un client. Et j'étais à l'article de la mort sur mon ordinateur à 40 degrés de fièvre. Donc ça, c'est aussi autre chose. Et dernièrement, le troisième point que je voulais te dire et que j'ai maintenant oublié. Bon, tant pis, ça me reviendra peut-être plus tard. Mais hier soir, par exemple, j'ai une amie qui travaille pour une grosse boîte, pour Pimco, je sais pas si vous connaissez. Et c'est pareil, là, eux, ils sont pas censés recommencer le présentiel avant septembre, mais ils ont une grosse pression de la boîte pour dire, bon, allez, ça y est, là, il faut quand même que vous bougiez le cul. Donc, elle y est retournée, son mari non. Et elle sent de suite la pression. Alors, elle a dû y aller à 6 heures du matin, alors qu'elle a une petite fille de 3 ans, rentrer à 7 heures le soir et lui mettre la pression pour venir tous les jours. Et c'est plus que les heures. Et bon. Donc, ouais, il y a une grosse pression ici aussi.
Alors, je vais le dire différemment. J'ai le sentiment qu'aux États-Unis, il y a quand même un certain nombre d'entreprises qui luttent contre le présentéisme, alors que, à ma connaissance, j'ai rencontré peu d'entreprises en France qui luttent contre ce présentéisme. Et je vais vous donner un exemple. Google, le matin, si tu es salarié de Google, tu arrives et ta première mission, c'est de faire la liste des tâches que tu dois faire dans la journée. Et tu les envoies à ton manager, qui les valide ou qui ne les valide pas, il peut en rajouter. Mais une fois que c'est validé, une fois que tu as fait tes tâches, et ça rejoint très bien ce que tu disais, Yvan, une fois que tu as fait ces tâches, même si tu les as finies à 15h30, tu peux te barrer. Et ça, ce côté to-do list, il y a quand même des entreprises qui commencent à intégrer ça et qui comprennent que la productivité, ce n'est pas une question d'heures passées au bureau, mais c'est une question de productivité. Et quand on sait qu'un salarié français passe en moyenne, je le rappelle, ce chiffre est énorme, une heure par jour sur ses réseaux sociaux perso, à regarder des vidéos de petits chats sur YouTube ou à poker ses amis sur Facebook, voire à écouter des rooms sur Clubhouse, enfin, c'est absolument terrifiant. Alors, je vais poser... bienvenue Frédéric. Je vais poser la question, on va peut-être faire là un petit tour. Alors, c'est tout à fait... cliquez votre micro si vous voulez donner votre solution. Ah bah, je suis très content. Alors, Frédéric, tu me pardonneras, je vais donner la parole par galanterie, mais également parce que Sonia est belge. Et je vais donner, comme elle le dit si bien, le bâton de parole en premier. En Belgique, est-ce qu'il y a du présentéisme ?
Eh bien oui, il y en a.
Mais non, ça y est, tu me déprimes, Sonia.
Mais non, et alors j'avais deux points, Gaëlle. Et peut-être que le deuxième dévie dans la conversation, donc tu le prends et tu le gardes pour plus tard. Je te laisse le déroulé de la conversation. Oui, il y a du présentéisme. Et en vous écoutant, m'est revenue une de mes premières interviews dans le privé, il y a déjà quelques temps, où on m'a dit, est-ce que tu es prête à travailler beaucoup et au-delà des heures ? Et à ma grande honte actuellement, Mais à l'époque, ben, j'ai dit oui, pour moi c'était normal. Pour moi c'était normal, et en vous écoutant, je me suis dit, mais pourquoi c'était normal en fait? Pourquoi est-ce qu'à l'époque c'était normal alors que pour le moment je suis plutôt orientée ben, les to-do list, j'aime beaucoup cet exemple Gaëlle, ou objectif. Eh bien, parce que j'étais ambitieuse, j'avais envie de faire carrière, et pour moi, j'ai été élevée dans la méritocratie où on doit donner beaucoup, beaucoup pour recevoir. Et donc, ça m'avait paru normal. Et quand j'y réfléchis, je pense pas que ça ait beaucoup changé, bien qu'il y ait certaines entreprises qui évoluent. Mais voilà, donc, et j'ai travaillé aussi pour des sociétés en Angleterre. Donc belge et puis international, ben en Angleterre, aux USA et en Europe, pour une même société, et je retrouvais la même chose.
Mais c'est là où ça rejoint ce que disait Christophe, c'est finalement, oui. Est-ce que le présentéisme, on ne nous le met pas dans la tête depuis qu'on est tout petit? Moi, quand je voyais mes enfants qui arrivaient à l'école, mais depuis la maternelle, à 8h du matin et qui en sortaient parfois à 18h, c'est depuis qu'on est tout petit en fait. En Belgique, c'est pareil?
Oui, c'est pareil, et c'est un peu affolant hein, quand on y pense. Nous, quand on travaille une journée, on est super fatigué à la fin. Et en Italie, c'est différent. En Italie, on va à l'école le matin, et puis après-midi, c'est tout ce qui est ludique, sport, art, musique, et ainsi de suite. En tout cas, ça l'était il y a quelques années, parce que j'ai de la famille là-bas, donc je me souviens bien de ça. Mais voilà, donc oui, Christophe, ok, donc c'est toujours le cas, puisque tu clignotes.
Mais alors, tu sais, moi, j'ai travaillé pour une entreprise allemande, Henkel, pour ne pas la nommer, et le siège allemand, on ne pouvait pas le joindre, passait 17 heures, donc tous les pays ne sont pas concernés. Donc, on va peut-être passer aux solutions après. Mais je trouve ça fou, et limite, ça me déprime un peu, parce que j'étais persuadé que c'était très franco-français. Et en fait, je m'aperçois que... Alors, j'aimerais bien... J'ai pingé un cousin canadien pour qu'il monte sur scène pour dire si c'était différent. Maï, toi, tu es dans quel pays? Et après, Yvan, je te donne la parole. J'ai vu que tu as cliqué.
Salut tout le monde.
Salut.
Alors, je ne sais pas si ma bio s'est mise à jour. Alors, moi, je vis à Hambourg, en Allemagne. Je suis française et je suis arrivée il n'y a pas très longtemps. Donc, malheureusement, je ne pourrais pas vous donner des tips sur comment c'est en Allemagne. Et j'ai rejoint l'entreprise dans laquelle tu as travaillé avant, Gaëlle.
Oh, tu es chez Henkel. Excellent. Ouais. J'ai parlé avec Madame Henkel. Mais oui, madame. Alors, et toi, c'est quoi ton regard? Ça fait combien de temps que tu es en Allemagne?
Alors, ça fait pas longtemps, moi, ça fait seulement 2 mois. Et alors, je voulais apporter un petit témoignage, on va dire. Premièrement, Gaëlle, comme toi, j'ai eu une dizaine de managers. Ça fait 12 ans que je travaille, je suis dans l'industrie de la beauté. J'ai fait que des gros groupes, Procter, etc., pour en citer quelques-uns. Et du coup, j'ai eu plusieurs managers comme toi qui te disent « tant que le boulot est fait, je m'en fiche de tes horaires ». Et franchement, je trouve que ça change la vie d'avoir quelqu'un qui donne la confiance. Je voulais dire que je pense qu'il y a aussi pas mal de managers qui essayent de surfer sur cette vague, mais en fait, qui n'ont pas du tout cette mentalité. Et résultat des courses, ils s'aperçoivent qu'ils peuvent te donner « Ah bah tiens, elle peut gérer ça en plus, puis ça en plus et ça en plus. » Donc, je me suis retrouvée à faire en gros le boulot de 2 personnes. Je suis partie en congé mat du coup pour mon deuxième enfant et juste avant j'avais réussi à faire reconnaître que je faisais le boulot de 2 personnes, donc ils ont embauché 2 personnes pour faire mon job. Et quand je suis revenue de congé mat, là je me suis dit je vais pas me faire avoir une deuxième fois, parce que du coup ils commençaient à me reproposer tiens c'est bien ce projet là qu'on a toujours postponé, tu vas pouvoir le faire cette fois-ci et tout. Et du coup ce que j'ai fait c'est du présentéisme. Alors, ma technique, c'était que du coup, j'ai instauré des bloqueurs le matin pour pouvoir me concentrer et bosser. Donc, je me suis inspirée de 2 livres qui m'ont vraiment aidée en productivité, The One Thing et Eat the Frog, s'il y en a qui connaissent.
Alors, Maï, on dit Maï ou Mai, pardon?
Maï.
Maï, alors, si tu peux mettre les références des livres dans ta bio pendant, oui. Pendant 1 heure, ça serait génial.
Super, pas de souci, oui. Voilà. Et en fait, du coup, donc typiquement, ils disent qu'il faut se bloquer du temps. Voilà, comme ça, les gens ne vous mettent pas des meetings. Et voilà. Et je suis devenue matinale avec le Miracle Morning aussi de Al Elrod. Donc, j'ai pas mal changé un peu mes habitudes. Et du coup, clairement, tous mes rendez-vous privés, quand je voulais faire des déj en extérieur, quand je pouvais aller à Station F parce que j'avais des amis là-bas et tout, bref, networker et tout ça, je faisais ça en fait sur ces temps de bloqueurs. Et puis, je finissais ma journée, on va dire, comme les autres membres de mon équipe, à 19h. Voilà, donc c'était mon moyen de présentéisme, c'est qu'en fait, dans ma journée, je m'allouais ces temps-là, parce que aussi j'avais la particularité que toute mon équipe était éclatée aux quatre coins de la France, donc on va dire qu'avant même le Covid, on n'avait déjà pas trop de suivi, on va dire, physique, puisque tout le monde télétravaillait. Et donc, du coup, ça me permettait voilà, de pouvoir faire un petit peu ma petite vie. Donc, je me suis organisée comme ça. Je peux te dire qu'en arrivant à Henkel, en fait, j'ai continué à faire ça, mais je me dis, c'est peut-être pas forcément le bon truc, parce que comme tu dis, j'ai entendu dire effectivement que les Allemands, faut finir tôt et tout. Donc, je suis en train de réfléchir si effectivement, je peux me permettre de dire, bah non, je finis effectivement à 15h, voire avant, pour faire mes trucs privés. Ce sera pas mal vu comme ça l'était en France.
Non, mais c'est fou, Maï. Alors, Yvan a demandé la parole et après Sonia, mais juste avant de donner la parole à Yvan et à Sonia, tu es en train de dire que, en fait, toi, tu appliques ta culture franco-française du présentéisme dans un pays où on ne te met pas forcément la pression du présentéisme, si j'ai bien compris ?
Bah, disons que pour l'instant, comme je te disais, je viens d'arriver chez Henkel et j'ai vraiment. Enfin, je suis encore en train de découvrir la culture. D'entreprise. Là, je peux te dire, par exemple, donc j'ai arrêté de bosser depuis un bon moment, mais je regardais sur Teams et je vois encore des collègues connectés. Donc, normalement, clairement, le vendredi, voilà.
Bah oui, 19h vendredi, en théorie, en Allemagne, voilà. On est en famille.
C'est ça. Et officiellement, on n'est pas censé mettre de meeting le vendredi. Donc voilà. Mais je vois qu'on en a quand même et j'ai des collègues qui en ont. Donc, si tu veux, pour l'instant, j'ai gardé un petit peu on va dire mes habitudes françaises. J'attends de voir vraiment comment ça se passe, s'il y a des remarques ou quoi que ce soit. Mais voilà, je suis après dans une unité très spéciale. Comme je viens de rejoindre l'équipe, c'est parce qu'on met en place plein de projets hyper passionnants, mais du coup, qui prennent beaucoup de temps. Et donc voilà, donc j'ai l'impression peut-être que c'est juste mon équipe qui bosse beaucoup et que peut-être le reste n'est pas dans cette optique-là. Mais bon, pour l'instant, j'ai gardé un peu ces habitudes, mais je suis en train petit à petit de lâcher. Je vois aussi comment ça se passe avec mon chef, clairement. Pour l'instant, bah, je me dis, si tant qu'il est content des résultats, bah, je peux peut-être un peu lâcher la bride et montrer comment je suis. Je découvre aussi comment mes collègues vivent. Est-ce qu'eux, ils ont, entre guillemets, une vie à côté ? Est-ce qu'ils partent tôt et tout ? Et donc, je peux faire pareil. Il y a pas mal de... Je suis un peu en mode mimétisme.
Ouais, t'es en mode découverte en ce moment. Mais c'est vrai que ce que tu dis... Alors, mille merci parce que t'as commencé à donner des tips avec le côté... planifier des moments pour soi en étant déconnecté et en travaillant sur ses projets. On va peut-être passer maintenant uniquement sur le côté tips. Donc Yvan, Sonia, je vais vous donner la parole. Donc mon cher Yvan, est-ce que tu as des tips, toi ?
Alors, j'ai des tips, mais si tu me le permets, j'aimerais faire le lien entre ce qu'a dit Christophe, qui me semble que du bon sens en disant une fois que le salarié a fini ce que je lui ai demandé, il peut partir. Et j'aimerais faire le lien avec ce qu'a dit Frédéric, et avec en disant que au bout d'un moment ils ont été obligés de virer presque le meilleur.
Ouais.
Je le fais rapidement, mais pour t'expliquer aussi à quoi le manager peut être soumis. J'aimerais être le manager que Christophe dit, et donc j'aimerais pouvoir faire partir ceux qui ont fait leur boulot en 3 heures au bout de 3 heures. Sauf que si je fais ça, comme je répète que la valeur travail ici, c'est l'heure, c'est les 35 heures, et que tout le monde y est. Enfin, que le code du travail définit 35 heures, je laisse partir celui qui bosse bien au bout de 3 heures, j'aurai les 4 autres, ou les 5 autres, ou les 10 autres qui, eux, n'ont pas fait le travail en 4 heures, et qui viendront me voir en disant mais pourquoi vous le laissez partir, il n'a pas fait ses 7 heures. Et moi, je fais mes 7 heures, d'accord ? Donc, qu'est-ce que je fais ? Je dis mais oui, mais il a fini le travail. Principe de non-discrimination établi par le Code du travail, je vais voir celui qui bosse bien en 3 heures et de lui dire « Je ne peux pas vous laisser partir avant. Pourquoi ? Parce que vous avez signé pour un contrat de 35 heures, vos collègues aussi, vous faites le même travail. Et donc, vous devez faire vos 7 heures comme tout le monde. »
Mais toi, tu es dans le parapublic, Yvan, si je ne me trompe pas.
Oui, oui, c'est ça. C'est ça.
Ouais, et c'est là où le Code du travail est un problème.
Oui, oui, c'est ça. Je finis juste, c'est qu'une fois que j'ai dit à celui qui bossait pas mieux, parce que chacun fait du mieux qu'il peut à l'endroit où il est, mais une fois que j'ai dit à celui qui bossait bien, mais ce que tu fais en 3 heures, je vais te demander de le faire en 7 heures, parce qu'en fait, les autres le font en 7 heures, et que donc, je ne peux pas ne pas faire ce qu'ils font, leur travail en 4 heures. Donc, le gars qui bossait en 4 heures, au bout de 6 mois, 1 an, il en a plein les roupettes, Et il me dit gentiment, eh ben moi, je ne peux plus de ça, j'en ai marre de ça, je ne donne plus de sens à mon travail, parce que jusqu'à présent, le travail qu'il est donné, eh ben c'était ce qu'il faisait, et que je lui demande de faire différemment. Total, je tire tout le monde vers le bas, et je ne peux rien faire d'autre que de constater ça, et essayer d'accompagner tout le monde au même endroit, alors qu'il y avait une deux chevaux et une Ferrari.
Mais c'est super intéressant, Yvan, parce que tu poses la question de la législation où, au final, même la législation encourage au présentéisme. C'est quand même un truc de fou. Alors, on va donner la parole. Alors, c'est un peu déprimant, je t'avouerai, parce que ça veut dire que globalement, tant qu'on ne change pas le code du travail, on sait que Dieu sait que c'est long de le changer. J'espère que Sonia, Hervé Charles qui a demandé la parole, puis Catherine, vont nous remonter le moral. Vas-y, Sonia, donne-nous des tips positifs.
Oui.
Oh, je sens le truc déprimant qui arrive, mon Dieu.
En fait, j'avais deux points, Gaëlle, je te remercie, j'avais deux points. Le témoignage de Frédéric me fait dire que finalement, puis je vais réfléchir à des types, hein, parce que le témoignage de Frédéric fait dire que finalement, c'est la manière dont le système fonctionne qui prévaut et non pas les performances, les résultats. Le deuxième, et Yvan m'a un petit peu coupé l'herbe sous le pied, mais quand tu as parlé, Gaëlle, de la to-do list qui était checkée et puis une fois que c'est fait, les gens peuvent partir, je me suis dit, et ça rejoint le point d'Yvan, comment peut-on changer un système dès lors qu'il est basé sur un nombre d'heures? Notre contrat, c'est, Yvan parlait de 35 heures, moi j'ai connu 40 heures, comment dès lors peut-on changer ça? Et peut-être que du coup, en te parlant, je me dis, est-ce que le type, ils peuvent être positifs? Est-ce qu'on peut avoir des solutions dès lors que la base fondamentale du contrat entre les employés et l'employeur est basée sur des heures et non pas, comme tu le disais, sur un objectif ou des résultats à atteindre?
Voilà. Mais tu sais, Sonia, ça me fait penser à quelque chose. Quand j'étais encore en entreprise, donc j'ai passé 20 ans en entreprise, à un moment, je disais à certains collaborateurs ou collaboratrices qui me disaient, mais Gaëlle, est-ce que je peux, et là je vous parle d'un truc où j'étais dans le public, parce que j'ai fait un passage en public, est-ce que je peux manger devant mon ordinateur et partir plus tôt? Et moi je me disais, mais oui, c'est empreint de bon sens. Sauf que quand tu es dans le public, il faut en référer au comité d'entreprise et au syndicat. Et en France, bah, c'est obligatoire la pause déjeuner. Même, alors qu'en Suède, 40% des salariés sautent à minima deux pauses déjeuner pour pouvoir partir encore plus tôt. Et c'est vrai que ça pose la question du code du travail. C'est hyper intéressant. Alors, Hervé Charles et Catherine, j'espère que vous me pardonnerez parce que Léna m'a fait remarquer que je n'ai pas vu son claquage de micro. Donc, vous pouvez me flageller avec des orties fraîches. Je vais donner la parole à Léna, Hervé Charles et à Catherine. Léna, la parole est à toi.
Je te remercie et je m'excuse, hein, c'est très rapide. Depuis tout à l'heure, en fait, je voulais rebondir en deux points. Le premier point, par rapport à ce que Laurent, je crois, a dit, il a parlé d'infantilisation et je trouve que c'est effectivement très important de développer la confiance. Déjà, commencer côté employeur, qu'il ait confiance dans les collaborateurs qu'il a recrutés, de donner du sens au travail pour lutter contre le présentéisme. Et le deuxième point, effectivement, c'était par rapport à ce qu'avait dit Frédéric, parce qu'on parle beaucoup d'égalité et on voit effectivement la difficulté de traiter les collaborateurs de façon égale, mais je pense, à mon sens, que c'est une erreur. On devrait, parce qu'on observe des aberrations dont il a parlé, et Yvan aussi vient d'en parler, je pense qu'on devrait plutôt parler d'équité, et j'ai envie de faire le parallèle avec le sport, parce que ça m'a fait penser à des anecdotes, notamment en NBA, où certains étaient choqués et ont demandé notamment au coach des Clippers ou à d'autres coachs comment ça se fait qu'on traitait les rockstars dans les équipes différemment des autres. Sauf qu'effectivement, je pense que c'est à l'employeur ou au manager de voir que dans son équipe, il y a des deux chevaux, il y a des Clio, il y a des Ferrari. Et il y a des personnes qui ont un type de fonctionnement très différent.
Mais c'est vrai qu'en France, on a un côté, on confond égalité et équité.
Exactement. Bah oui. Et je pense qu'il faut s'adapter aux collaborateurs parce qu'il y a des collaborateurs qui, tout simplement, ont du talent. Et si on oppose talent et compétence, alors on a des collaborateurs qui vont être très compétents, des profils connus, et il y en a d'autres qui ont vraiment du talent, du génie, de la créativité, de l'innovation. Et je pense que c'est une erreur de freiner ces personnes-là.
Ouais. Bah ouais, je suis tellement d'accord avec toi, Léna. Mais je pense que c'est plus simple à appliquer dans une PME que dans un grand groupe, et encore pire dans le public, comme nous l'a montré Yvan, parce qu'on a un code du travail qui a été établi peut-être à une période où le présentéisme était moins dérangeant, où c'était Mais quand on est dans une grande agglomération, dans un grand groupe, devoir faire 9h, 19h, voire 20h, moi j'étais dans des groupes de communication, tu partais avant 19h, tu étais traité comme de la merde. Alors je vais donner la parole à Hervé Charles et ça sera Catherine qui clôturera la room puisque nous arrivons vers la fin et vous le savez maintenant peut-être, je suis un hystérique de la ponctualité. Cher Hervé Charles, la parole est à toi.
Alors merci, je vais essayer de finir par un tips. Alors je vais vous parler de moi et je vais vous parler de mes collaborateurs et je répondrai sachant que certains le savent, je travaille sur les risques psychosociaux, donc forcément l'accompagnement des collaborateurs et les RH. Je vais vous parler de l'entreprise dans laquelle j'interviens. J'ai à peu près une soixantaine de collaborateurs. La première chose, effectivement, qui est vue avec eux, c'est de donner du sens. C'est pas venir simplement chercher une rémunération, c'est prendre du plaisir et donner du sens. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'entreprise a 13 ans, un peu plus de 13 ans. Mes collaborateurs, il est défini avec eux qu'à partir du moment où ils ont réalisé leurs objectifs, ils ont réalisé leurs tâches, ils font ce qu'ils veulent. Ça ne me regarde pas. Mais par contre, on fonctionne par objectif. Ça veut dire aussi que quelquefois, ils peuvent travailler 4 heures par jour. Des fois, ils peuvent travailler 11 heures par jour. Ils gèrent leur agenda. Ça ne me regarde pas à partir du moment où mes clients, nos clients, sont satisfaits et qu'eux ont pris du sens et de la valeur à ce qu'ils ont fait. Maintenant, comment on fait par rapport au code du travail ? Parce que la question s'est posée. Moi, il y a une chose qui m'a toujours affolé depuis que je suis rentré. C'est vrai, Gaël, on a à peu près le même âge. Moi, la première entreprise où je suis allé, il y avait une pointeuse. Je pointais pour rentrer et je pointais pour sortir. Et je trouvais ça complètement aberrant. Parce qu'il y a des phases où je ne faisais rien. Parce que j'attendais qu'un collaborateur ou un collègue me donne des éléments. Et je ne les avais pas. Et je me suis toujours dit, mais je ne le mets pas en application. J'ai eu la chance dans ma vie, effectivement, de rencontrer des managers qui avaient la même philosophie. Et moi, depuis 13 ans, en tout cas, je l'applique avec mes collaborateurs. Leur donner du sens et leur dire qu'effectivement, bah, s'ils ont fini, s'ils veulent faire autre chose, ils continuent. S'ils veulent partir, ils partent. Par contre, le jour où il faut rester 11 heures, j'ai aucun souci. Et je viendrai après sur le code du travail.
Mais est-ce que tu ne crois pas que c'est quand même spécifique ? Je ne sais pas combien de collaborateurs tu as, mais j'imagine que...
60.
Voilà, donc tu es une belle PME. Mais comme c'est toi qui as voix au chapitre sur tout, c'est plus simple que si tu es une administration...
Alors, c'est plus compliqué que l'administration, enfin plus simple, pardon, qu'une administration, ça j'entends bien. Mais c'est pas. Alors, oui, je suis l'initiateur, je suis le chef d'entreprise, ce qu'il en faut, hein. Mais généralement, ce sont des décisions qui sont généralement collégiales. Je tranche, oui, j'ai pas de souci, mais c'est souvent collégial. Il y a une participation, en fait, il y a un respect de chacun qui est fait. Et on n'est pas dans Bisounours Compagnie, hein, je vous rassure. Hein. On n'est absolument pas dans Bisounours Compagnie. C'est que nous, on accompagne des collaborateurs en difficulté, en risques psychosociaux, en burn-out. On accompagne, donc c'est très compliqué. Et je ne vois pas mettre ça en interne, des choses effectivement que je distille à l'extérieur. Ça, c'est impossible. Maintenant, l'élément par rapport au contrat de travail. Effectivement, alors, il y a 35 heures, ce qui fait 1596 heures, ou alors une annualisation pour les cadres. Simplement, moi, ils ont des missions à faire et simplement, ils vont m'annoter le fait d'avoir rédigé, préparé un rapport anticipé parce qu'une mission, on ne peut pas le quantifier en timing. Donc, je joue sur ça, effectivement, ce qui fait que ça les ramène sur leur quota. Mais je crois que la plus grande chose que j'ai vue avec eux, ce qu'ils m'ont déjà dit en tout cas, c'est de leur avoir donné du sens à ce qu'ils faisaient.
Ouais, c'est essentiel ce que tu rappelles. Et oui, c'est vrai, j'avais complètement oublié ça. C'est ça de plus être dans le monde de l'entreprise depuis trop longtemps. C'est vrai qu'il y a quand même un nombre de salariés qui sont pas aux 35 heures du tout. Et notamment les cadres, c'est un contrat, mais il n'y a pas d'heure spécifiée. Donc,
c'est une annualisation, en fait. Ouais, ils ont un forfait, etc.
Et c'est là où le rôle du manager redevient absolument essentiel. Donc, alors, j'ai tendance à mettre beaucoup de pression au manager, mais c'est vrai que sur le présentéisme, il y a une responsabilité absolument de dingue. Donc, c'est quoi le nom de ta boîte, Hervé Charles ? Parce qu'il y a des gens qui vont t'envoyer des CV, je pense.
Ça s'appelle Performance RH, performance-rh.com. Alors, on recrute, oui, on est à peu près 60, et surtout, on a la chance. Alors, avant Covid, c'était plus simple, on travaille à l'international et surtout en langue anglaise, majoritairement français et anglais.
Voilà, donc tu parles anglais, tu as un joli CV, envoie ton CV à Hervé Charles si tu as envie de travailler 5 heures par jour. Non, plaisanterie mise à part. Non, mais tu sais quoi,
oui.
Je veux juste donner une anecdote avant de donner la parole à Catherine. Vous connaissez peut-être cette entreprise qui s'appelle Welcome to the Jungle, qui est un site web d'information. Ils sont passés à la semaine de 4 jours. Et les plus angoissés, c'était les commerciaux qui se disaient « Mais comment on va faire notre chiffre d'affaires en 4 jours alors qu'on travaillait 5 avant ?» Eh bien, figurez-vous, que tous les objectifs ont été atteints, voire dépassés. Et ce qui montre bien, et on a des exemples concrets, et la semaine de 4 jours, Bah, il y a des exemples concrets en France, il y en a un peu partout dans le monde. Ça fonctionne parce que les gens s'organisent différemment. Ils font moins de réunions, en tout cas pas des réunions de 3 heures qui servent à rien. Ils regardent leur mail que 2 fois par jour au lieu de les regarder en permanence. Et il y a une organisation du travail qui va faire qu'on va devenir plus productif. Et je vais vous livrer à toutes et à tous une étude qui est sortie avant le Covid, qui est une étude anglaise sur plusieurs milliers de salariés. Et je vais poser la question, alors tiens, je vais poser la question aux personnes on stage. À votre avis, selon cette étude, c'était pour calculer le temps productif sur une journée de 8 heures de présence au bureau. À votre avis, un salarié, combien de temps est-il vraiment productif sur 8 heures de présence au bureau ? Hervé Charles.
6 heures.
Ok, Hervé Charles, 6 heures. Christophe, combien de temps ?
2 heures.
Ok, Léna, combien de temps ?
4 heures.
Yvan ?
2-3 heures.
2-3 heures. Sonia ?
2 heures.
Maï ?
Je dirais 4 heures.
Catherine ?
J'étais plus 2-3 heures comme Yvan, oui.
Eh bien, Yvan et Catherine, vous avez raison, parce que c'est 2h53. 2h53. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Vous imaginez, alors bien entendu, on ne compte pas là-dedans le temps informel, qui est important pour la créativité, mais ça laisse quand même 2h53, les amis, c'est quand même un truc de dingue. Alors, ma chère Catherine, il est 19h03, donc nous arrivons à la fin de la room, et ça va être ton intervention qui va clôturer cette room. Donc, c'est à toi.
Oh là, la pression.
Grosse pression. Ouais, grosse pression, je sais. Désolée.
Merci, Gaël. C'est très sympa. Non, mais je voulais, moi, finir sur le tip. Finalement, c'est quand même le rôle du manager de lutter contre le présentéisme. C'est son exemplarité. C'est le fait de, comme dit Hervé Charles, de donner du sens. Et comme dit Sonia et Maïk, de la confiance. Le fait de rassembler ces deux choses et de s'adapter aussi à chaque collaborateur. Moi, je prône la diversité cognitive au travail parce que on aura forcément des Ferrari, des deux chevaux et autres et de l'intermédiaire. Mais c'est surtout qu'on a toujours une compétence, un talent approprié à une tâche. Il faut juste que le manager sache pourquoi le collaborateur est fait, où est-ce qu'il sera le plus performant. Et ce que j'ai bien aimé à un moment donné, c'est que j'ai lu le bouquin de Robert Sutton sur Objectif Zéro Salcon, et ça répond à pourquoi on a viré la personne la plus performante et atypique, peut-être, que Frédéric disait tout à l'heure. C'est qu'à un moment donné, s'il y en a un qui est le plus performant, mais qui met l'embrouille dans une ambiance d'équipe, il est évident que tous les autres vont perdre de sens et de motivation et que le global sera moins bon. Et dans le bouquin, vous verrez qu'il y avait un commercial qui a été effectivement viré. C'était lui qui faisait le plus gros chiffre d'affaires de l'entreprise. Et à son départ, l'entreprise a fait plus de chiffre d'affaires parce que tous les autres se sont soutenus et ont remonté et ont donné une meilleure performance à l'entreprise. Donc, c'est bien au manager d'identifier le grain de sable, de savoir faire un équilibre charge-ressources qui sont que des objectifs, puisque la règle et notre loi du travail pénale en France ne permet pas de libérer tout ce qui est en dessous des cadres dans les horaires fixes, puisqu'en fait, le manager reste responsable pénal de la santé physique et mentale des collaborateurs, et on a beaucoup de gens qui ne sont pas cadres. Donc on ne peut pas jouer comme ça, et c'est l'intérêt, le sens et le taux d'occupation, ce juste équilibre qui permet qu'un collaborateur, s'il a du sens, ça ne le gêne pas de faire ses 7 heures, 8 heures, voire un petit peu plus, et de faire du win-win effectivement avec les heures sup. Nous, on a mis des compteurs pour protéger le collaborateur, d'éviter qu'il fasse du présentéisme et faire trop d'horaires, mais ça peut devenir une contrainte. Parce que si un manager ne sait pas donner la bonne charge par rapport à sa ressource, bah forcément, il va être obligé de faire plus d'heures, et s'il est contraint par un compteur d'heures, et ben ça va mettre en évidence que le manager ne fait pas son boulot, ou que le collaborateur a besoin d'aide pour accomplir sa tâche.
Mais Catherine, voilà. Mais quelle belle conclusion et dernière intervention, parce que m'évoque deux réflexions. Un, il faut rappeler que 10% des salariés français ont ou vont faire un burn-out. Et que le burn-out, la première cause, c'est la surcharge de travail. qui est responsable de cette surcharge de travail? En 1, le manager. Le meilleur rempart contre le burn-out, c'est le management. Et c'est pour ça que j'avais écrit un article il y a 3-4 ans sur faire un permis à points pour les managers. Et ben, dès que tu as un burn-out dans ton équipe, tu perds des points, tu perds 6 points sur ton permis. Bon, c'était peut-être un peu extrême. Mais plus sérieusement, tu rappelles quelque chose qui me semble essentiel et ce qu'a évoqué Hervé Charles aussi et plusieurs dans la room. C'est un moment, cher manager, s'il y a des managers dans cette room, donnez l'exemple. Parce que le présentéisme, souvent, c'est caler son comportement sur ce que fait son manager. Si son manager part à 20h, bah, je ne vais pas partir à 17h même si j'ai fini, parce qu'il faut que je montre que je travaille autant. Donc les managers ont une vraie énorme responsabilité là-dedans. Donc agissons et j'espère que ça va mieux se passer. Parce que très honnêtement, le présentéisme, et attention au présentéisme numérique, je tenais à vous alerter sur un tout petit sujet. Une entreprise allemande que je n'aimerais pas, non, Maë, ce n'est pas la tienne, c'est une autre, c'est dans l'automobile, où elle va rémunérer en heures supplémentaires le présentéisme en ligne. Ce qui pousse les salariés à être présents en ligne, quitte à mettre des vidéos YouTube pour faire croire qu'ils sont présents, pour avoir plus d'argent. Donc on arrive à des aberrations absolument totales, donc je crois que remettre un peu de bon sens dans tout ça, ça serait peut-être pas mal. Alors les amis, Léna, Hervé Charles, Catherine, Yvan, Sonia, Maï et Aaron, merci 1 million de fois d'avoir été là. Toute l'audience, vous avez été très nombreux aujourd'hui. Ben, mille merci aussi d'avoir été présents. Juste pour information, donc, cette room a été enregistrée, comme je le disais en introduction. Et donc, vous pourrez avoir le replay à partir de dimanche matin sur toutes les plateformes. Je vous remercie 1 million de fois d'avoir été là. Le sujet de la semaine prochaine, je ne le connais pas encore, mais il y aura une room la semaine prochaine parce que, contrairement à certaines coachs que je ne dénoncerai pas, mais qui sont juste à ma droite sur le stage, je ne prends pas de vacances. Les amis, alors si vous voulez dire un petit mot d'au revoir...
C'est bas.
Ouais, je sais, c'est bas, Léna. Allez, je vous laisse un petit mot d'au revoir parce que j'aime bien que la room se clôture par 2 phrases d'au revoir. Donc, on va faire dans l'ordre. Donc, Maléna, est-ce que tu as un petit mot à dire en 15 secondes, tout le monde a 15 secondes pour dire au revoir.
Alors, manager, faites confiance à vos collaborateurs, donnez-leur du sens et faites qu'ils prennent du plaisir à travailler.
J'adore, bravo. Hervé Charles.
J'ai bien aimé, dans cette room, il n'y avait pas beaucoup de présentéisme, tout le monde a parlé et participé.
C'est vrai, j'essaye, en tant que modo principal, entre guillemets, j'essaye. Bah, ouais, c'est vrai. Alors, j'espère qu'il n'y a pas eu de présentéisme et que personne s'est forcé, mais c'est l'avantage de Clubhouse, on peut se barrer quand on veut et on ne se fait pas gronder. Ma chère Catherine.
Eh ben, merci Gaëlle et merci à tous pour tous ces bons tuyaux et surtout pour tes podcasts.
Merci Catherine. Mon cher Yvan.
Merci Gaëlle pour cette room et les sujets. On n'a pas parlé de bore-out et de burn-out. Ça serait bien de... Peut-être que tu es en face
de... Tu as raison. Tu as raison. Alors, le burn-out en 2 mots, peut-être, Yvan ?
Le burn-out, c'est s'emmerder au travail. Le burn-out, c'est voir un peu, un peu voir tout gris. Mais bon, là, j'ai schématisé. Mais de vous intéresser au burn-out et au burn-out, je vais dire manager, faites de votre mieux. Et je vais dire collaborateur, faites de votre mieux aussi. Parce que le présentéisme, ça peut venir du manager, ça peut venir aussi de tous les salariés que nous sommes en acceptant de faire des choses qu'on n'accepterait pas d'autres, donc voilà.
Yvan, tu me fais réaliser qu'on est passé à côté d'un sujet qui est le bore-out, effectivement, qui sont les gens qui s'emmerdent au bureau,
et
qui font des heures de présence. T'as raison, Yvan. Mais ça fera le sujet d'une autre room. Et donc, je vais de ce pas me flageller avec des orties fraîches à cause de toi. Donc, merci, cher Yvan.
Désolé.
Sonia, un petit mot de la fin ?
Happy work, happy life, happy weekend à toute la room.
Ah voilà, ça, et merci d'avoir pris le bâton de parole pour ces jolies paroles. Mon cher Aaron, est-ce que tu as un petit mot de la fin ? C'est toi qui vas avoir le dernier mot. C'est fou ça.
Ah, quel honneur.
Mais
eh
oui.
Ben, écoutez, merci beaucoup pour le sujet. Et en réalité, on doit aller travailler, mais il ne faut pas qu'on parte au travail. Ce n'est pas une crèche pour adultes. Voilà. Et excellent week-end à tout le monde.
Eh ben, c'était un très beau mot, Aaron. Merci beaucoup. Merci, mais vraiment du fond du cœur à toutes et à tous d'avoir été aussi nombreux sur cette room. Donc, pour rappel, le replay sera en ligne à partir de dimanche matin. Et je finirai cette room comme tous les podcasts que je fais de Happy Work. Alors, si vous, je vais faire ma promo un tout petit peu. Si vous n'êtes pas abonné à mes podcasts, il y a entre 3 et 4 épisodes. Et petit scoop, allez, je vais vous livrer un petit scoop. Le 24 août prochain, pour Happy Work, j'interviewe une ministre qui va nous parler de sa vision du bien-être au travail, donc en tant que ministre. Donc, je trouve ça plutôt chouette. Je suis hyper fier. C'est un beau podcast et je suis hyper content de ce complément avec Clubhouse parce que bah, quand tu fais un podcast, forcément, par essence, tu ne parles à personne. Donc, merci d'être présent. Moi, ça m'encourage. Je trouve ça juste génial. J'ai passé un excellent moment et je vais finir comme je finis chacun de mes podcasts en vous disant surtout, avant toute chose, prenez soin de vous. Les amis, mille merci à vous et je ferme cette room dans 5, 4, 3,
belle
2,
soirée.
1 et bon week-end. Salut les amis.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.